Yes, I'd like to answer some questions that were asked at the last question period. La première question, c'était de Mme Sandra Etienne. En juin 2017, nous sommes venus devant vous pour dénoncer les conditions de travail des professionnels. Nous sommes revenus en 2018 pour un suivi. Aujourd'hui, nous revenons encore une fois pour vous poser la question suivante. Que comptez-vous faire pour améliorer les conditions de travail de catégorie 4 du CUSUM? Alors, j'avais rappelé dans mon intervention, puis j'avais répondu en partie en disant que l'objectif est toujours la même chose, c'est de concilier la qualité de vie au travail avec la qualité des services offerts à notre population. On comprend qu'il y a des difficultés de main-d'œuvre présentement partout dans le réseau de la santé et des services sociaux. On sait aussi qu'OptiLab, dont la plupart des travailleurs font partie du syndicat PTS, est un cas particulier qui termine sa troisième année. Et c'est un très grand changement, on en convient. Donc, je voulais mentionner, j'avais mentionné aussi que nos indicateurs de performance du côté des RH, que ce soit l'assurance salaire ou encore la rotation du personnel ou les départs, les arrivées, ce qu'on appelle en anglais le turnover, était plus faible ici que dans d'autres milieux, mais qu'on était conscient qu'il y avait des enjeux et qu'on s'engageait à travailler avec nos syndicats pour essayer de maintenir le meilleur climat de travail possible et de garder les communications ouvertes et tout ça avec le même objectif toujours, de concilier la qualité de vie au travail et les réalités familiales, puis avec la qualité des services. Peut-être quelques éléments pour avoir parlé avec les gens des ressources humaines après que cette question-là a été posée. Donc, le CUSUM, bien entendu, est soucieux des conditions de travail de son personnel. Nous essayons de mieux en mieux outiller les gestionnaires afin que ceux-ci puissent soutenir adéquatement leurs employés sur le terrain. Pour ce faire, voici quelques exemples d'actions qui sont actuellement en cours auprès des gestionnaires. Donc, maintenant, on a centralisé l'accueil des demandes des différents services en partenariat d'affaires dans un mode de guichet unique afin d'accompagner les gestionnaires et les directeurs dans une gestion plus stratégique des enjeux RH pour répondre plus vite aussi à leurs questions, parce que leurs questions, c'est souvent les questions de nos employés. Puis la recherche de solutions qui sont à l'extérieur du cadre, puis innovantes. Puis si les syndicats ont des suggestions à nous faire, on est bien entendu prêts à les entendre. Il y a aussi une mise en place d'un comité pour la planification de la main-d'œuvre pour l'ensemble des directions, sur lesquelles aussi il y aura des discussions, bien entendu, avec les syndicats. Et puis, développement d'un modèle de leadership qui va être déployé pour tous les gestionnaires au cours de l'année 2020. On sait l'importance que les gestionnaires de terrain, donc les cadres intermédiaires, ont pour leurs équipes, pour leurs employés. Ce sont souvent les personnes qui ont à répondre aux questions, qui ont aussi à faire preuve, quand c'est possible, de flexibilité afin de permettre des congés familiaux, des absences quand il y a une visite médicale ou un enfant malade. Donc, on sait que ces gens-là ont besoin d'être soutenus. Et dans un contexte où nous, nos services doivent être offerts 24 heures par jour, c'est pas facile, donc on travaille là-dessus. Les indicateurs RH, un petit peu, on va se concentrer sur la catégorie 4. D'habitude, on a les indicateurs qui sont agrégés pour l'ensemble de nos travailleurs. Donc, le ratio d'assurance salaire pour la catégorie 4 est de 4,4 en 2017-18, 4,4,4. 2018-19, 4,75, 4,75. 2019-20, 5,30. Donc, une augmentation. Le réseau de la santé, présentement, est à peu près à 8 %. Nous, on est à peu près à 6,3. Donc, à l'heure actuelle, nos syndiqués en PTS présentent un ratio d'assurance salaire qui est inférieur à la moyenne de nos employés. Bien entendu, c'est dans il y a des secteurs où c'est plus élevé que ça, entre autres dans les services techniques, où les taux ont tendance à être plus hauts. L'absentéisme court terme est à 16,15 en 17-18, 15,72 l'année passée, une légère amélioration. Cette année, on s'est remonté à 16,55. C'est un indicateur à surveiller. Les taux de temps supplémentaire, 2,5 %, 3,03, 3,17 %. Il ne faut pas oublier que présentement, à l'Abitibi, pour OptiLab, on fonctionne beaucoup, beaucoup avec du temps supplémentaire ou de la main-d'œuvre indépendante dans certains plus petits milieux où il est difficile de trouver des ressources humaines. Taux de roulement externe, donc les individus qui roulent à l'intérieur des établissements, donc qui quittent un établissement pour aller dans un autre établissement du ministère, qui fait partie du ministère de la Santé et des Services sociaux, c'était 8,73 en 17-18. C'est 8,78 l'année passée, puis là, on est à 7,21 pour l'instant, après, je pense, ces 9 périodes. Et donc, ça, on s'en voit une petite baisse, mais ça peut être dû au fait que les technologues, quand ils sont devenus des employés d'OptiLab puis du CUSUM, ils ont peut-être eu l'occasion de changer d'endroit pour aller dans d'autres postes, puis peut-être que c'est en train de se stabiliser. C'est une hypothèse que j'aimais. Ce n'est pas nécessairement parce que les gens aiment plus leur emploi ou sont plus attachés à l'emploi. C'est peut-être parce que les gens se placent à l'endroit où vous voulez vraiment être, à l'intérieur de Petit Lab, qui a quand même plus de possibilités que les plus petites unités qu'il y avait avant. Le nombre de griefs est en augmentation. On a 298 il y a deux ans, 481, 562. Donc, j'encourage la direction et les syndicats à garder les voies de communication ouvertes. Puis, le taux de rétention sur un an, donc les gens qui changent de poste puis qui vont rester un an dans le nouveau poste, on était à 73,8 là, il y a deux ans, 72,34 l'an passé, ça diminuait. Et là, on est à 83,4 cette année. Ça va un petit peu avec le taux de roulement externe qui est en baisse, là. Donc, ça, c'est encourageant. Donc, en même temps, je veux terminer en vous disant qu'on vous assure notre entière collaboration pour promouvoir un environnement de travail sain et harmonieux, et ça pour l'ensemble des employés. L'autre question était celle de M. Alan Hogg. Volunteer Patients Committee, an issue has been brought to my attention, especially with the onset in winter, is the existing passageway that connects the Vendôme Metro Station with the hospital. In particular, I refer to the slope portion south of the train tracks, access, stairs, extending to the point where it joins the underground parking lot. Patients find it difficult to negotiate, floor is slippery when wet, and there are no handrails. When will handrails be installed? Two, can the slippery floor be covered with non-slip carpeting or rubber matting? I would also add that handrails should also be used, should be added to the new tunnel connected to the metro station. Alors, les réponses suivantes m'ont été fournies par M. Pierre-Marc Legris, directeur des services techniques. One, the MUHC installed handrails along the western wall of the tunnel between the Vendôme metro station and the MUHC S1 level. This work was carried on January the 3rd, 2020. So c'est that was question number one. Two, the MUHC tested anti-skid strips on the floor of the tunnel between the metro station and the MUHC S1 level. Although the strips adhered to the tiles, they were unfortunately removed as they began to be pulled up by what we assumed to be the cold. Tests are currently being done to validate the effects of the temperature on the strip's adherence level. Other options may be explored in the coming weeks. Trois, I can confirm that handrails will be installed in the MUHC portion of the tunnel. However, we are still waiting confirmation from the Société de Transport de Montréal on their intentions for the portion of the tunnel under their responsibility. So these were the answers to Monsieur Hogg.
Nous avons des questions. Je crois que vous avez répondu à...
Oui, il y avait la question du numéro de Mme Savoie. Je ne sais pas, Mme Savoie, si ça a répondu à votre question. Where is Mme Savoie? Oui, elle est là.
Oui, ça a répondu en partie, mais c'est parce qu'on est toujours en train de... On voulait avoir une idée du temps parce qu'on a encore des difficultés d'accessibilité pour l'édifice par les patients qui ont un défi moteur, qui ne sont pas capables, qui ont des difficultés d'accès. Alors, on continue à vous demander des choses.
Oui. Tous les aménagements qu'on peut faire, on va les faire. Je sais qu'il y en a qui ont été faits l'année passée. La Ville a réparé la rue, les trottoirs. Après ça, on a travaillé sur une entrée. Donc, s'il y a des choses, moi, je vous référerai à M. Legris, le directeur des services techniques, ce qui peut être fait. Puis on va regarder ce qui est faisable. Le building appartient à McGill aussi. C'est ça qu'il faut faire ça avec eux, là, ensemble. Donc, mais on est ouvert parce que quand on dit que ça va prendre 8 à 10 ans avec un building change de place, c'est sûr qu'il faut faire des aménagements.
Ça. Alors, on rencontre M. Legris le mois prochain, puis bon, effectivement, pour un patient qui a une situation de santé, bien, 10 ans, c'est pas mal de temps.
C'est beaucoup de temps. Malheureusement, c'est la vitesse avec laquelle on fait nos projets immobiliers. Je voyais que les Chinois vont faire un hôpital, puis le 2 février, il va être ouvert pour le SRAS. C'est un hôpital préfabriqué, temporaire, bien entendu, mais peut-être qu'on pourrait apprendre quelques petites leçons de ça. Il y avait, Monsieur Hogg, did I answer your question?
Oh, I think you did. For the most part, I'd just like to, I just want to say that I understand the ER problem is a complex one. And I want to thank members of the board, the administration, and all the people who work at the hospitals for doing their best to work these problems out. I understand that sometimes your hands are tied as well from a budgetary point of view.
Yeah, two things. First of all, I would say that at the present moment, money is not the main culprit. It's really disponibility, availability of people. And I would like I would ask you to see Madame Diré in the back after the meeting. She's responsible. She's the directrice des services multidisciplinaires. She's responsible for all allied professionals. And while we were listening to Madame Pierre, she texted me. She said, I'd like to talk to this gentleman to see what was exactly the situation that happened over that weekend. So maybe you could talk to Madame Diré. She's responsible for all the professionals. The third question, is Madame Keeley. Yeah, it's you. So you want me to read the question, or you would like to read it yourself?
No, I can read it.
Go ahead, madam.
Yeah, merci. Dr. Feller and members of the board, long before construction commenced at the Glen site for our new MUHC hospital, I was lobbying for a public pharmacy on this site, preferably one which would reopen 24/7. Currently, I'm a member of the RVH Patients Committee Functional Accommodation Subcommittee. We have been informed by the MUHC personnel serving on this committee that there will be a pharmacy on site situated on the lower level near the ER entrance. Further, as a current member of the STM's Vendome Project Liaison Committee, I have learned that the STM has or will shortly release the area adjacent to the new pedestrian tunnel to MUHC administrators. My questions today are, has the STM given you access and authority to the MUHC side of the newly constructed pedestrian tunnel? Two, does the MUHC remain committed to construct a pharmacy on the Glen site? If so, will it be located as originally proposed near the ER? And what would be the tentative time frame for its opening? And thirdly, will essential services provided by this pharmacy, e.g., prescription medications, OTC medications, that's right, and medical supplies be available for purchase 24/7. Now, these are the things we have been agitating for in the Patients Committee for a number of years, and also that's what we've been working on, and I've been asking for boards of directors long before you were these things.
Thank you very much.
Okay. Yes.
First part of the answer is that we didn't take possession yet of the part of the tunnel that we own. Should be done in the next couple of weeks. There's not a lot of more works to do in that part of the tunnel, but STM still didn't give us the key to the tunnel. Yeah, but the tunnel is supposed to open later in the fall. But that doesn't, we're still going to be allowed to go into the tunnel because this space belongs to us. Okay, so that will be in the next few weeks. There will be a pharmacy in the tunnel, right at the opening of the tunnel, so on the level S1. And the opening is, right now is scheduled around July of 2020. So we went out to a public tender, and Pharmacie Proxim had the highest bid. So they're scheduled to open, like I said, in July. I'm not sure the hours of operation will be 24/7 because they have
they
a business to run, and I
they
don't think it's
going to
be no.
I don't know of a hospital pharmacy in Montreal that's open 24/7.
Yeah.
But in a hospital, I don't know of any.
See, we wanted that because of the fact that people in emergency could get their medications, and especially those that are providing care either to children or to elderly people, they could pick all of that up in one place and then, you know.
It would be a great service, but yeah. At the same time, it's a business, and I understand that it's very difficult to keep extended hours and still remain open.
Yes, but if you get the first prescription in that setup, you were going to go back to that supplier again.
Maybe.
You know, yeah, there's a trade-off. Well, maybe we could try to persuade them.
Yeah, maybe. Okay. So does that answer your question?
Yes, thank you very much.
Thank you very much.